Marius regagna sa chambre en prenant toutes les précautions, afin qu'on ne le vît pas rentrer. Il parvint chez lui sans être vu. Il s'assit sur son lit, tenant sa tête entre ses mains. Il était 5h30. Une demi-heure seulement le séparait de ce qui allait arriver. Marius ôta doucement ses bottes. À cet instant, il entendit Jondrette qui rentrait. Tout de suite, plusieurs voix s'élevèrent. La maison était si calme à cette heure-ci que Marius put suivre toute la conversation sans monter sur la commode.
Eh bien, tout va bien. Tout va au poil.
A-t-on mangé ici ?
Bah, j'ai eu 3 grosses pommes de terre et du sel, j'en ai profité pour rallumer le feu.
Mets ça dans le feu. As-tu voilé les gonds de la porte pour qu'ils fassent aucun bruit comme je te l'avais demandé ?
C'est fait.
Vous, les filles, allez faire le guet dans la rue.
Par ce froid ?
Demain, vous aurez des bottines en soie. Allez, exécution !
Marius jugea qu'il était temps de reprendre place à son poste d'observation. Jondrette avait allumé sa pipe et s'était assis sur sa chaise trouée. On sentait dans cette pièce l'attente de quelque chose d'épouvantable. Soudain, Jondrette amena vivement à lui le tiroir de la table et y prit un long couteau de cuisine. Il essaya le tranchant sur son ongle. Cela fait, il remit le couteau dans le tiroir. Marius serrait dans sa poche l'un des pistolets. On entendit un fiacre s'arrêter devant la maison et des pas résonner dans l'escalier.
Entrez, monsieur.
Monsieur, voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite.
Dieu vous le rende, mon généreux bienfaiteur.
Et comment va la pauvre petite blessée ?
Mal, oh, très mal. Sa sœur aînée l'a amenée à l'hôpital se faire panser. Elles vont pas tarder.
Madame Jondrette me paraît mieux portante.
N'en croyez rien. Elle est mourante. Mais elle a tant de courage, cette femme-là. Qu'est-ce qui nous resterait si nous n'avions pas de courage ? On a des bras, mais pas de travail. Quelle chute. Quand je pense à notre prospérité du temps passé, hélas, il ne nous reste rien. Rien qu'une seule chose. Un tableau auquel je tiens beaucoup. Pourtant, il faudra bien un jour que je m'en défasse. Il faut bien vivre.
Pendant que Jondrette se lamentait, Marius avait vu rentrer sans un bruit un homme dans la pièce. Il s'était assis sur un lit en silence.
Qui est-ce ?
Oh, faites pas attention, c'est un voisin.
Un deuxième homme entra à cet instant.
Ce sont des gens de la maison. Ils viennent chaque soir pour jouer aux cartes. Je disais donc qu'il me restait un tableau précieux. Tenez, monsieur, regardez.
Il se leva et alla à l'autre bout de la pièce, dans l'ombre, et en ramena une sorte de panneau de bois. Marius, de l'endroit où il était, ne pouvait distinguer ce que c'était.
Qu'est-ce que c'est ?
Je vous l'ai dit déjà. Un tableau d'un grand prix, j'y tiens, comme à mes deux filles. Il me rappelle des souvenirs.
Marius sentit dans les yeux du bienfaiteur une lueur d'inquiétude alors qu'il examinait le tableau. Il y avait maintenant 4 hommes dans la pièce. Bras nus, immobiles, le visage barbouillé de noir.
Achetez-moi donc mon tableau. Ayez pitié de ma misère. Je vous le vendrai pas cher. Combien m'en donneriez-vous ?
On dirait une enseigne de cabaret ou quelque chose comme ça. Bon, ça ne vaut pas plus de 3 francs.
Je me contenterai de 1000 écus. Allons, mon bon monsieur. Faut bien vivre. Allons, ça suffit. Ne me reconnaissez-vous pas ?
3 hommes venaient de rentrer à nouveau dans la pièce. Ils étaient masqués et menaçants. Chacun d'eux tenait en main une barre de fer. Le bienfaiteur semblait réaliser soudain le guet-apens dans lequel il venait de tomber. Il s'était réfugié derrière la table. Cet homme, à l'air si paisible quelques minutes auparavant, était devenu en un éclair un athlète. Il posait son poing sur le dossier de la chaise avec un geste robuste et redoutable. Il n'y avait dans son air rien qui ressemblât à la peur.
Vous ne me reconnaissez donc pas ?
Non.
Je ne m'appelle pas Jondrette. Je me nomme Thénardier. Je suis l'aubergiste de Montfermeil. Thénardier ! Maintenant, vous me reconnaissez.
Pas davantage.
Au moment où Jondrette avait dit « Je m'appelle Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Ce nom que l'homme ne semblait pas connaître, lui, Marius, le connaissait. Ce nom était bien celui cité dans le testament de son père. Il se répéta les phrases de la lettre.
Un nommé Thénardier m'a sauvé la vie. Si mon fils le rencontre, il lui fera tout le bien qu'il pourra. Le sauveur de mon père est donc un bandit.
Marius se remit à observer la pièce voisine. Thénardier se tenait devant la cheminée.
Je vous retrouve enfin, monsieur le millionnaire râpé, monsieur le donneur de poupées. Non, vous ne me reconnaissez pas. Ce n'est peut-être pas vous qui êtes venu à Montfermeil, à mon auberge, la nuit de Noël 1823. C'est pas vous qui avez emmené de chez moi l'enfant Cosette. Et vous ne me reconnaissez pas. Eh bien, moi, je vous reconnais. C'est vous la cause de tous mes malheurs. Vous m'avez volé cet enfant. Je vous l'ai laissé pour 1500 francs, alors qu'il devait en valoir 10 fois plus. 100 fois plus. Vous avez du bien à rire de moi. C'est chacun son tour. Vous êtes fichu, mon bonhomme.
Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous vous méprenez. Vous me prenez pour un autre.
Alors vous ne voyez pas qui je suis.
La seule chose que je vois, c'est que vous êtes un bandit.
Bandit. C'est ainsi que vous nous appelez. Vous, les gens riches. Arrête. Finissons-en. Il me faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, qu'as-tu à dire avant qu'on ne te mette en morceaux ?
Je n'ai rien d'autre à dire.
À cet instant, l'homme renversa la table et une chaise. Avec l'agilité d'un chat, il avait ouvert la fenêtre et s'apprêtait à sauter dans la rue. Mais les gredins réussirent à le saisir par les bras avant qu'il ne s'échappe. Marius attendait encore avant de donner l'alerte. Partagé qu'il était entre la volonté de sortir le père de sa bien-aimée des griffes de ses bandits et le désir d'épargner Thénardier, dont son père, dans son testament, lui avait recommandé de prendre soin. Dans la pièce voisine, la bagarre faisait rage. L'homme semblait investi d'une force rageuse. Il repoussait ses adversaires au nombre de 6, des pieds et des mains. Après plus d'un quart d'heure, cette meute de gredins parvint à maîtriser le pauvre homme.
Fouillez-le, vous autres! Et attachez-le solidement avec cette corde!